Et la troisième chose que nous avons vue, c'était le dernier message, c'est que pour être fort spirituellement, il est important que nous nous reposions. Et je dois dire, je n'ai jamais eu autant de compliments sur un sermon que sur celui-là. Apparemment, ce sermon-là, ça a été le jackpot, hein. Tout le monde était content. Merci Seigneur, t'as vraiment bien prêché, etc. Bon, gloire à Dieu, hein. Alors, ma question est, est-ce que vous êtes en train de pratiquer? Parce que non seulement il s'agit évidemment d'un certain repos physique, repos dans notre âme, mais un repos dans notre esprit, un repos devant Dieu. On continue ce verset-là. Il nous est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent. Où sont les sources de la vie? Elles sont dans ton cœur, puisque tu es né de nouveau. N'est-il pas vrai que Jésus a dit que quand nous sommes nés de nouveau dans Jean, hein, dans l'évangile de Jean, quand nous sommes nés de nouveau, eh bien, la source de la vie éternelle est en nous. Et ensuite, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, eh bien, nous permettons à cette source-là de couler hors de nous. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Quand nous avons prié pour les uns et les autres, nous n'avons pas gardé ces fleuves d'eau vive en nous. Nous les avons dirigés vers la personne qui était devant nous. Et ce sont des fleuves qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui sont extrêmement réels et qui peuvent être perçus de manière tangible, c'est-à-dire qu'on peut ressentir la substance de ces fleuves-là. Comme quand on prie pour quelqu'un, on peut sentir tout d'un coup la puissance de Dieu, on peut sentir les fleuves d'eau vive qui vont dans cette personne-là. Et puis quelquefois, on sent que ces fleuves-là ne vont pas, ils restent avec nous, hein. Donc, il s'agit d'expliquer très souvent à la personne comment recevoir. Mais il est important de garder notre cœur parce que quand notre cœur n'est pas gardé, et nous allons voir tout à l'heure quels sont les ennemis d'un esprit fort. Parce que nous avons vu comment être fort spirituellement, mais il y a des ennemis et c'est important parce que nous voulons toujours libérer ces sources d'eau vive. Est-ce que vous savez que une des sources qui est en nous, c'est la prophétie? Le fleuve de la prophétie, c'est quoi? Le fleuve de la parole inspirée. Et avoir une parole inspirée, c'est bien à l'église, mais la parole inspirée, c'est-à-dire qui réconforte, qui console, qui encourage les uns et les autres, eh bien, ces paroles inspirées, nous devrions les avoir à n'importe quel moment de la journée. Pas qu'à l'église, simplement, hein? N'importe quel moment de la journée. Regardez Proverbe. Proverbe chapitre 18, et nous connaissons le verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Qui nous soutient dans un moment de crise? Alors ici, ces maladies, ça peut être dans n'importe quelle difficulté. Qu'est-ce qui va te soutenir? La Bible dit, c'est ce que tu as mis en toi. Ce qui est dans ton esprit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Et très souvent, je me suis rendu compte que avant de prier pour la situation particulière de quelqu'un, si cette personne n'a plus d'espoir, la première chose qu'il faut, c'est pomper l'espoir dans cette personne. C'est-à-dire que la personne elle-même retrouve cet espoir et avec l'espoir qu'elle retrouve, la foi que Dieu à nouveau va exaucer. Vous comprenez? Et Hébreux chapitre 12. Regardez ce qu'il est dit, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, qui est cette nuée de témoins? Eh bien, ce dont il est question dans le chapitre 11. C'est-à-dire tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Et la liste n'est pas complète. Il y a tous ceux qui, même de notre famille, nous ont précédés dans la foi. Alors, la Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, ce qui nous laisse à penser que s'ils sont témoins, s'ils sont nos témoins, ils sont au courant des progrès que nous faisons dans la foi, vrai ou pas. Nous, nous ne pouvons pas les voir, nous ne pouvons pas communiquer avec ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont quitté cette terre et qui sont maintenant auprès du Seigneur. En revanche, eux, il dit qu'ils sont témoins. Ils sont au courant de là où nous sommes en Dieu. Ils n'ont aucune idée du tailleur que nous portons. Ils n'ont aucune idée de ce que nous avons mangé. Ils ne sont les choses de cette terre ne les intéressent pas, parce que les choses de cette terre sont corruptibles et ils n'ont plus accès aux choses corruptibles. En revanche, les choses qui sont incorruptibles, qui sont éternelles, les choses qui sont en Dieu, les choses de Dieu qui se passent sur cette terre, la Bible dit. Eh bien, ils sont au courant. Ils sont nos témoins. On ne peut pas être témoin de quelque chose qu'on n'a pas vu, non ? Je crois que ça fait plaisir. Bon, alors, il est dit, puisque nous sommes environnés d'une... Moi, je trouve que c'est extraordinaire. La Bible dit que nous formons une seule famille, non ? Il y a une partie de la famille qui est encore ici-bas, dans cette dimension, et il y a une autre partie de la famille, gloire à Dieu, mais c'est la même famille. Vous réalisez, c'est le même Père. Nous vivons avec les mêmes principes. Alors, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection. Une autre version dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Alors, et c'est sûr que pour courir la course, pour faire la volonté de Dieu, pour que tu atteignes ta destinée en Dieu, Dieu a un plan qui est spécifique pour toi et qu'il n'a pour personne d'autre de toutes les générations ou sur cette planète. Il a un plan particulier pour toi et pour que tu puisses le faire, eh bien, il est certain que tu dois être fort dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit que dans notre course, il y a certaines choses qui nous ralentissent. Or, ça n'est pas simplement ce que nous faisons pour Dieu, mais une chose que j'ai apprise, c'est que le temps de Dieu est aussi important que ce que nous faisons. Vous pouvez avoir, par exemple, ma sœur fait du pain depuis quelque temps. Gloire à Dieu. Merci Frédéric pour la recette. Et ah non, c'est un exploit parce que, attention là, hein, du pain... fait maison, la bonne farine, etc. Mais je vous garantis qu'elle peut avoir tous les ingrédients, elle peut avoir passé tout le temps à la préparation de la pâte, hein. Elle peut l'avoir laissé lever le temps nécessaire, si le temps de la cuisson, il ne s'agit pas que de cuire le pain, si le temps de la cuisson n'est pas bon, on ne peut pas le manger le pain. Alors, c'est pour ça que la Bible dit que, bien sûr, nous avons une destinée, nous avons une course qui est devant chacun de nous, mais la Bible dit que nous devons aller au rythme de Dieu. Et pour aller au rythme de Dieu, eh bien, il y a certaines choses, peut-être, dont il faut se débarrasser parce qu'elles alourdissent. Tu sais que plus tu veux prendre de l'altitude, bien, tu as intérêt à délester. Tu as vu déjà des montgolfières, hein. Eh bien, une montgolfière, ils vont gonfler la voile, la toile. Ils vont mettre l'hélium nécessaire pour maintenir au sol. Il va falloir qu'ils la lestent. Il va falloir qu'ils mettent du poids dans cette montgolfière. Mais il ne suffit pas que cette montgolfière soit bien gonflée. Il ne suffit pas qu'elle soit prête pour qu'elle monte. Eh bien, et pour qu'elle soit utile à celui qui va la piloter, il va falloir qu'il retire les poids. Autant de poids nécessaires et au fur et à mesure, eh ben, ils vont jeter ces poids. Nous, c'est la même chose. Plus nous voulons monter dans la volonté de Dieu, eh bien, et quelquefois, ce sont des choses qui sont toutes petites. Des choses même que l'on a récupérées au passage, que l'on a connues au début de notre conversion. Ça, je le dis pour quelqu'un. Des choses basiques. Au début de notre conversion, peut-être on le faisait ou on le faisait pas, peu importe. Et le long du chemin, on a récupéré, et on se dit, mais pourquoi est-ce que il y a quelque chose qui n'est plus pareil? Comment se fait-il? Ben, peut-être qu'on a besoin de se délaisser de certaines choses, hein. Mais, regardez avec moi dans Matthieu, chapitre 6. Alors, vous connaissez tous ce passage, Matthieu chapitre 6. Vous savez, parfois, on se nourrit de la parole. On pratique la parole. On prend des temps de rafraîchissement dans le Seigneur. On se repose. Mais nous sommes un peu comme une baignoire que l'on cherche à remplir en ayant gardé le bouchon sur le côté de la baignoire. Alors, qu'est-ce qui se passerait si vous ouvriez le robinet et que vous le ouvriez vraiment à fond, mais que vous ne bouchez pas le trou d'évacuation? Que se passerait-il? Bien, au fur et à mesure que l'on remplirait cette baignoire, au fur et à mesure, elle se viderait. Hein? Eh bien, c'est un petit peu comme ça. Il y a des choses dans notre vie qui littéralement nous drainent, qui drainent la force spirituelle qui est en nous. Et si on ne prend pas le temps de boucher certaines choses ou de repérer des pertes, de repérer les fuites, à la limite, parfois, c'est un compliment quand on nous dit « tu es bouché ». Quelquefois, on se dit, bah, toi, t'es bouché. Tu peux dire, ah, merci du compliment. Hein? Chacun son interprétation. Mais on ne veut pas être comme cela. On ne veut pas être cette baignoire que le Seigneur cherche à remplir et finalement dont il ne peut pas. Il n'y a aucun usage utile pour cela. Parce qu'au fur et à mesure où on se remplit de la parole, au fur et à mesure où on pratique, eh bien, on est en train de perdre d'un autre côté ses forces spirituelles. Il y a quelque chose qui nous draine. Eh bien, je vais vous montrer dans Matthieu chapitre 6 ce qui va nous drainer très, très vite. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point. Alors, c'est un ordre. C'est pas un conseil. C'est pas une bonne idée. La Bible dit, c'est ton Père Céleste qui te dit, ne t'inquiète pas. Et ne dis pas, pourquoi? Parce que très souvent, quand on s'inquiète, la pire des choses, c'est qu'en plus, on le dit. Ce qui fait que pour de bon, on s'installe dans le problème, ou alors, très souvent, on s'inquiète pour quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. Mais parce qu'on le dit, il va arriver. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Alors, ça n'est pas mauvais de se poser ces questions, mais quand on se pose des questions, il ne devrait pas y avoir une tonne d'incrédulité. Il y a différentes manières de poser des questions. Et toutes celles qui sont motivées par l'incrédulité, nous ne voulons pas les poser, nous ne voulons pas, surtout pas avec de la rancœur, surtout pas avec une mauvaise attitude. Quand nous posons ces questions, nous les présentons, nous présentons des faits à Dieu et nous les couvrons par la parole de Dieu. Une fois que nous avons dit, tu sais Seigneur, regarde, la nouvelle saison arrive là, et franchement, regarde un peu mes placards là, je n'ai pas ce qui m'est nécessaire. Regarde, si je mets cette couleur là, je l'ai depuis 3 ans, ça va pas cette histoire là. Seigneur, j'ai besoin de nouveaux vêtements. Et la parole de Dieu me dit que les vêtements sont importants pour toi. Si. C'est moi qui prêche, Elisabeth. Au moins, elle est dans le message, ça fait plaisir. Hein? Hein? Les vêtements sont importants pour Dieu. Bien sûr qu'ils sont importants. Et est-ce que vous croyez que les couleurs sont importantes pour Dieu? Ben, c'est lui qui les a choisies. Bien sûr qu'elles sont importantes. Demandez-lui un peu comment il habillait ses sacrificateurs. Vous allez voir si Dieu n'avait pas des idées précises en tête. Hein. Mais il est bon de dire, mais ta parole me dit que tu pourvois tous mes besoins. Ta parole dit que parce que j'ai semé, je moissonne. Au temps convenable. Seigneur, c'est le temps convenable maintenant. C'est pas l'hiver prochain que je vais mettre des vêtements d'été. C'est maintenant le temps convenable. Seigneur, vous comprenez la manière de poser les questions. D'accord. Et puis ensuite, il est dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pourquoi Dieu ne veut-il pas que tu sois occupé dans tes pensées à rechercher ces choses? C'est écrit plus loin. Parce qu'il veut que tu sois libre dans tes pensées de rechercher Dieu. Et que c'est très difficile de rechercher les deux choses à la fois. Et je vais vous dire, ça je ne sais même pas pourquoi je le dis, mais peut-être que ça va aider quelqu'un. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu veut que les pasteurs soient bien payés. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, et c'est la pire des choses qui puissent arriver à une église. Je ne le dis pas pour moi, hein? Je ne le dis pas pour moi, mais je sais que quelqu'un a besoin de l'entendre. La pire des choses qui puissent arriver à une église, c'est que vous ayez un pasteur qui soit tourmenté en disant, mais comment je vais faire pour payer l'école de mes enfants? Comment est-ce que je vais faire pour payer telle moto à mon fils? Pourquoi il n'aurait pas sa moto? Non? Et que les autres enfants l'auraient. Comment est-ce que je vais faire pour offrir ces vacances à ma femme? Et que parce que cet homme est, vous savez, c'est juste, Dieu sait que ces questions, elles sont justes parce qu'on est sur terre, on a besoin de toutes ces choses-là. Hein. Mais que cet homme de Dieu, parce qu'il est complètement, il va se coucher et il dit, mais comment je vais faire pour faire cela? Eh bien, il ne puisse pas chercher Dieu pendant ce temps-là. Ça, c'est la pire des choses. Et je vais vous dire, il serait temps qu'en France, les chrétiens et les églises comprennent ce besoin. Libérez les pasteurs. Et là, je le dis, libérez vos pasteurs. Vous vous en porterez mieux. La Bible dit que l'église se porte mieux quand le serviteur de Dieu fait l'œuvre de Dieu sans gémir. Ça n'est pas ce qui est écrit, c'est Paul qui l'a dit. Hein. Alors là, je fais un détour, mais bon. Le Saint-Esprit sait pourquoi. Et puis ensuite, il est dit, justement, hein, ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi? Parce que ton Père sait que tu en as besoin. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, il dit, ce que tu ne veux pas, c'est ne t'inquiète pas du lendemain, parce que demain, c'est demain, demain viendra. Ne t'occupe pas de ce qui va venir demain. Ça ne veut pas dire que tu es négligent, non, mais il y a des fois où on est tellement chargé que c'est déjà beau si on arrive à penser à aujourd'hui. Hein. Et la Bible dit, si tu es trop occupé, dans ces cas-là, cherche le royaume de Dieu pour aujourd'hui. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine, demain, eh bien quand demain viendra, tu recommenceras. Et puis tu seras plus fort au point de pouvoir penser à la semaine prochaine sans t'effrayer. D'accord? Mais la Bible nous dit ici, ne vous inquiétez donc point. Je vais vous dire, l'inquiétude et la peur sont des choses qui vous drainent des forces spirituelles. Et à tel point que en général, les gens qui sont inquiets sont fatigués. Certains, ils passent leur temps au lit parce qu'ils sont fatigués. Fatigués à cause de quoi? À cause de l'inquiétude. Est-ce que vous avez vu la tête que quelqu'un a quand il est inquiété? Est-ce qu'il est édifié? As-tu déjà vu l'inquiétude édifier quelqu'un? Non. En général, quand quelqu'un est inquiet, il est dépouillé de toutes ses forces. Nous sommes en train de voir quels sont les ennemis d'un esprit fort. Qu'est-ce qui peut drainer tes forces? Qu'est-ce qui peut faire qu'il y a des fuites, il y a des pertes dans ta vie spirituelle? Aujourd'hui même, on entend beaucoup parler de l'environnement, hein. On entend beaucoup parler des déperditions de chaleur. Quelqu'un peut avoir une maison qui est bien bâtie, qui a tout le confort à l'intérieur, mais si cette personne, en plein hiver, malgré le chauffage high-tech qu'ils ont à la maison, s'ils laissent les portes ouvertes ou les fenêtres ouvertes, dans ces cas-là, ça ne servira à rien. Hein? Où on nous dit très souvent, vérifiez un petit peu l'étanchéité de vos fenêtres. Mais spirituellement, c'est vrai. Si nous avons des choses dans notre vie qui créent des déperditions de force, eh bien, il va falloir qu'on s'en occupe. On ne peut pas prendre le temps de se remplir d'un côté pour perdre le bienfait de ce que nous avons mis en nous. Chapitre 4. Vous connaissez cette parabole des quatre sortes de terre qui représente quatre attitudes quand on reçoit la parole de Dieu. Mais il nous est dit ici, au verset 14, le semeur sème la parole. Donc en ce moment, c'est moi le semeur, mais c'est toi le semeur quand tu lis la parole de Dieu aussi, hein. Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée, aussitôt quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est-à-dire, bon, ils ont lu la parole, ils l'ont lu même à voix haute, mais hop, ils n'y pensent plus tout de suite. Après, ils ont fait leur devoir religieux, ils partent au travail. Grosso modo, c'est ça. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Le temps, pendant quel temps croient-ils? Le temps que ça leur procure de la joie, à vrai dire. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Notez que les quatre personnes ont entendu la même parole. Mais la même parole ne produit pas les mêmes effets chez tout le monde, non pas à cause de celui qui la sème, non pas à cause de la qualité de la parole c'est la parole, mais à cause de la manière de réceptionner cette parole-là. Il ne suffit pas de l'entendre, encore faut-il la recevoir et effectivement la mettre en pratique. Mais dans le troisième des cas, il nous est dit que la parole de Dieu a été étouffée par les épines, par les mauvaises herbes qui sont quoi? Ben qui sont, bien sûr, on voit les convoitises, mais notamment les inquiétudes, les soucis. Quand nous mettons la parole de Dieu en nous, mais que nous choisissons de méditer sur les impossibilités, les pensées d'incrédulité vont prendre le dessus sur la parole de Dieu et vont l'empêcher de produire le résultat pour lequel nous avons voulu méditer. D'accord? Donc, il y a vraiment un choix à faire entre s'inquiéter, c'est-à-dire méditer sur les paroles, et méditer sur la parole de Dieu. Quand nous sommes dans une situation qui est difficile, choisissons non seulement de nous nourrir, mais de garder cette parole de Dieu dans notre cœur. Et puis, il y a encore, je vais vous citer ce que quelqu'un a dit, hein. Il a dit, je ne m'inquiète pas de ce que je peux faire, car je peux le faire. Je répète, je ne m'inquiète pas de ce que je peux faire, parce que je peux le faire. Et pour ce que je ne peux pas faire, ben je m'inquiète pas non plus parce que je peux pas le faire. Alors, résultat, quand devons-nous nous inquiéter? Jamais. Parce que, ou bien tu peux le faire, et dans ces cas-là, tu ne te fais pas de soucis, ou tu ne peux pas le faire, et ben tu sais que tu ne peux pas le faire, donc tu ne te fais pas de soucis non plus parce que tu ne peux pas le faire. Hein? Mais que, en revanche, ce que le diable souhaite, c'est nous charger. Et il y a une chose que j'ai dit hier à l'église de Marseille, c'est ne soyez pas la mule du diable. Ne soyez pas la mule du diable. Ne vous laissez pas charger par ses fardeaux à lui. Parce que je vais vous dire, il est rempli de problèmes desquels il ne sortira jamais. Il est rempli de fardeaux dont il ne sera jamais soulagé. Et ce qu'il veut, c'est se décharger sur quelqu'un qui acceptera de les prendre. Alors, à nous de dire, non, je refuse ce fardeau. Je refuse de me charger. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, seulement quelqu'un qui est dans le repos peut vraiment faire ma volonté. Il nous dit après, il dit, moi aussi j'ai des instructions à vous donner. Moi aussi, j'ai un fardeau à vous confier. Le fardeau du diable, c'est l'inquiétude, c'est l'incrédulité, c'est la maladie, ce sont toutes ces choses-là. Tandis que le fardeau de Dieu, c'est le fardeau de voir son royaume étendu. Le fardeau de voir les nations qui se tournent vers Dieu. Le fardeau de voir un réveil là où nous sommes. Le fardeau de voir des âmes sauvées. Le fardeau de voir sa volonté accomplie. Ça, c'est un fardeau dont nous devons nous charger. Mais ne confondons pas, nous ne sommes pas la mule du diable. Et à Marseille, j'ai dit, nous ne sommes pas la mule du pape. Bon, ça aussi, ça aussi, hein. Mais de toute façon, nous ne sommes pas la mule du diable. Regardez avec moi dans Jérémie chapitre 2. Il y a un autre élément qui a un véritable effet de drainage. Regardez au chapitre 2, alors un des ennemis d'un esprit fort, c'est l'inquiétude, un autre ennemi ici, car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Une chose qui va être vraiment avoir un effet de nous pomper nos forces spirituelles, ben c'est évidemment le péché, mais tout ce qui est charnel. Et il y a des moments, par exemple, où il faut savoir dire non à certaines choses qui ne font que puiser de vous des forces spirituelles. Parfois, ça peut être quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, hein, mais qui peut avoir cet effet de pomper parce que ça ne fait que réclamer de vous. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une télé, ça peut être des choses qui en elles-mêmes ne sont pas mauvaises, mais qui puisent de nous, et c'est exactement comme ce bouchon qu'on n'a pas placé dans notre baignoire, et on dit, mais pourtant, je lis la parole de Dieu, je pratique, je me repose, mais... Alors parfois, il y a des choses à faire, hein, et faire attention à ces choses-là. Regardez dans Luc chapitre 10, un troisième point, Luc chapitre 10, quels sont les ennemis d'un esprit fort ? Alors, est-il nécessaire de s'alléger de certaines choses ? Alors, on connaît tous cette histoire-là, verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Tu sais, quand tu décides de t'asseoir au pied du Seigneur, je peux te garantir que, premièrement, ta chair te dira « tu es paresseux ». Si vous décidez de prendre un moment devant Dieu Et simplement de méditer sur les Écritures, ou de parler en langue, ou simplement de laisser vos pensées se remplir de la parole de Dieu, ou d'adorer Dieu simplement. La première chose qui va venir contre vous, ça va être votre chair. Et si c'est pas votre chair, il y a de grandes chances que ce soit la chair de quelqu'un d'autre. Je dis, mais comment se fait-il? Tu es paresseux, tu ne fais rien, bouge-toi, tu vois ce qu'il y a à faire. Hein. Il y a des moments où ce que l'on peut faire, c'est dire, tu sais, ce temps-là, je vais me le réserver à moi. Et ça a été la réaction de Marthe ici. Alors, elle a appris que Jésus venait, c'est coutumier de la part du Seigneur. Et immédiatement, au lieu de penser à ce que Jésus voulait d'elle, elle s'est dit, voilà ce que Jésus veut de moi. Immédiatement, elle a commencé à ranger toute sa maison. Elle s'est précipitée dans la salle à manger. Elle a changé la nappe. Elle a été cueillir des fleurs. Elle les a mises dans le vase. Elle a vite remis 2-3 objets à sa place. Elle s'est précipitée vers les placards de la cuisine pour remarquer, horreur, je ne peux pas faire le plat préféré de Jésus. Vite fait, elle est allée en ville. Elle a fait ses courses. Il fait chaud en Israël. Elle est revenue. Elle transpirait. Elle se précipite dans la cuisine. Horreur, au moment où ses yeux regardent ce qui se passe dans le salon, elle voit Marie qui est en train d'écouter Jésus. Et là, il lui pète un câble, comme on dit aujourd'hui. Elle n'en peut plus. Là, trop, c'est trop. Elle voit sa sœur qui est en train d'écouter le Seigneur, alors qu'il y a plus et il y a mieux à faire. Un des ennemis d'un esprit fort, c'est justement de trop en faire. C'est l'activisme. Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie auxquelles on aurait besoin de dire, tu sais quoi? Non. Ça ne veut pas dire c'est mauvais, mais pas maintenant. Il y a des priorités qui doivent rester des priorités. Ce qui vient, la Bible nous a dit tout à l'heure, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses. Et s'il faut, Marthe a fini de préparer la maison, de préparer son repas pour s'entendre dire par le Seigneur, tu sais Marthe, j'aurais aimé rester mais je n'ai pas le temps. Ça vous est déjà arrivé ça? L'horreur. Ça c'est un coup à partir dans les pommes ça pour une ménagère. Hein? Mais dans sa tête, elle avait décidé ce qui était important. Elle avait déplacé ses priorités. C'est valable pour tout dans les affaires. Quelquefois, on se gratte la tête, on dit, mais comment est-ce que je peux me sortir de là? Et on prend un rendez-vous ici, et on va vers telle personne, au lieu d'aller au pied du Seigneur, et de laisser le Seigneur nous transmettre la sagesse d'en haut. La réussite vient de Dieu. La réussite ne vient pas de nos bonnes idées, ni même des efforts. Est-ce qu'il n'est pas dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. Ça ne veut pas dire qu'on est des imbéciles et qu'on ne réfléchit plus. Mais on réfléchit, on fait les choses après avoir reçu des directives du Seigneur. On fait les choses après avoir été consulté, celui qui est le numéro uno en entreprise. Un consultant, vous le savez, un consultant, ça. Hein? Alors cela, trop en faire, assure nous. Ça va nous pomper, ça va nous pomper même de ce que nous avons mis en Dieu. Alors, il est question de finir sa course, hein. Il est question de faire ce que Dieu nous demande de faire, mais ça va même au-delà de cela. Une fois que l'on a fait ce que l'on voulait faire, même si c'est bien, quelle est notre attitude? Si à la fin, on est complètement frustré, et puis on n'a plus de joie, et on est énervé, ah ben d'accord, voilà, ben j'ai fait, mange Seigneur. Hein? J'ai préparé le repas au Seigneur, j'ai rangé toute la maison, et puis le Seigneur finalement se lève, Marie se lève à ses côtés, et puis ils viennent manger, oh. Venez, c'est servi. Et on peut imaginer Marthe sous le coup de la frustration. C'est prêt. C'est à point, Seigneur. C'est juste comme tu aimes. À point, à point, à point. Hein, Marie, que c'est bon, là, non? Ouais, il manque des couverts. Bon, ben, tu peux aller chercher toi-même. à mon tour de m'asseoir. Et comme on ne peut pas manger la bouche pleine, Jésus ne parle plus, il mange. Wow! Qu'est-ce qui peut... Il suffit, bien sûr, il faut que l'on se nourrisse correctement spirituellement. Il faut que l'on pratique, que l'on s'exerce. Il faut que l'on se repose. Mais attention aux déperditions. Et trop en faire est une déperdition dans notre maison spirituelle. Il y a encore un dernier point. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Ici, Rebecca dit quelque chose à son fils Isaac. Et elle dit, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Alors là, elle était en train de parler de ses belles filles. Et quand on pense à Juges chapitre 16, versets 15 et 16, vous lirez chez vous, mais on voit que Samson, lui aussi, a été fatigué à cause d'une relation. Samson a été épuisé par quelqu'un qui n'a pas cessé de puiser de lui. À tel point qu'au lieu d'amener Delilah de son côté, c'est lui qui a fini de son côté. Et la Français courant dit, pour ce verset de Genèse 27, 46, dit « Je suis déjà assez dégoûté de la vie à cause de mes belles-filles hittites. » Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, quelquefois, il peut y avoir des déperditions d'énergie spirituelle. Alors, on n'est pas dans le yoga, mantra, machin, patin, couffin. C'est pas ça que l'on parle. On parle de forces spirituelles, de forces qui sont dans notre être intérieur. Et parfois, on peut être très faible à cause de certaines relations. Vous avez remarqué, il y a des gens, une fois que vous avez passer du temps, et en ce qui me concerne, en tant que pasteur, je ne pense à personne d'ici, pour vous rassurer, hein. Mais ça m'est déjà arrivé de passer du temps avec quelqu'un, et peut-être à la fin de cet après-midi ou autre, même je pense, par exemple, pour moi, quand je vais en ville, en général, faire du shopping, j'ai horreur, mais en général, je suis complètement pompée. Pourquoi? Parce que ça m'a épuisée, ça a retiré les forces de moi, hein. Mais il y a des personnes, notamment, quelquefois, tout ce qu'elles font, c'est elles nous puisent, elles nous drainent. Et on a passé du temps, c'est comme si ces personnes, en général, viennent, sont avec nous uniquement pour recevoir et donnent rien. En général, c'est ça, ce genre de relation-là. Et ce sont des personnes qui prennent, qui prennent, qui prennent, qui prennent de nous, et puis au bout de l'après-midi, ou de la matinée, ou de la soirée, quoi que ce soit, on pense qu'à une chose, c'est direction la maison, parce qu'on est complètement épuisé. Il y a des relations qui nous... Elles sont pas forcément mauvaises, mais peut-être que l'autre personne est très immature. Peut-être que l'autre personne a plus de besoins que je n'ai de provision en moi. Vous comprenez comment c'est? Alors, dans ces cas-là, il faut être honnête. Et puis dire, oula, cette personne-là, bien, si jamais je vais la voir, eh bien, je vais peut-être... Alors, ça dépend du style de relation que nous avons. Hein. On peut dire, tiens, je vais passer peut-être une heure avec cette personne, ou peut-être deux heures, ou peut-être... mais on va mesurer de manière à dire... Ou alors, ce que l'on a à faire, hein, c'est, encore une fois, ça dépend du type de relation. C'est avant d'aller voir cette personne... Je vais me charger de la parole de Dieu et il est hors de question que je sorte pompée de ce temps passé. Vous avez déjà vécu ça? Bien sûr, bien sûr. Hein. Donc, alors, ça, d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle très souvent, en tant que pasteur, avant le culte, vous avez remarqué, après le culte, on reste, mais avant le culte, en général, on ne passe pas beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que les gens, en général, viennent et nous disent, oh, tiens, pasteur, j'ai ci et j'ai ça, et est-ce que tu peux m'aider avec ci, avec, si bien que, on peut être drainé de ce qui est en nous avant qu'on ait atteint notre chaise, voire la chair. Donc ça, c'est parfois, c'est alors surtout s'il y a eu peut-être une semaine chargée avant ou autre, donc on fait attention, ça n'est pas parce que les pasteurs n'aiment pas les gens, vous imaginez, il faut changer de métier là, hein. Mais il faut aller garder les chameaux dans le désert sinon. Mais non, c'est parce qu'on veut être sûr que quand on se tient devant vous, on a la force nécessaire pour délivrer la parole de Dieu et la force, on est suffisamment rempli pour être sensible au Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui veut s'occuper de ses brebis pendant que vous êtes là. Hein? Donc si le pasteur lui est KO, il n'a plus aucune force et qu'il n'entend plus la voix de Dieu, bien résultat, le Seigneur n'a pas fait ce qu'il voulait faire et les brebis sortent inchangées. Bon, bah, autant aller pique-niquer dans ces cas-là. Il y a un pique-nique au fait à la fin du mois. Hein? Vous vous rappelez de cela? Il y a un pique-nique. Vraiment, faites en sorte de venir à ce pique-nique-là. Il n'y aura pas le culte ici, on aura un petit moment ensemble où on va, je partagerai une parole d'exhortation, ce sera bref, et ensuite nous mangerons tous ensemble, et quelqu'un, vous a remarqué, a dit, mais jusqu'à quand dure ce pique-nique? À vrai dire, faites ce que vous pouvez, si vous ne pouvez rester qu'une heure, restez une heure, mais en général, ça se finit quand le pasteur a gagné à la pétanque, voilà, après tout le monde... Bien, voilà, je voulais vous rappeler, hein, restez fort, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, hein, mais ce que l'on sait, c'est que très souvent à côté de nous, il y a des gens qui sont faibles. Et il n'y a aucune raison que les chrétiens soient faibles, parce que nous sommes supposés aider les autres. Nous devons être forts en toutes circonstances et ne pas nous écrouler dès qu'on entend une mauvaise nouvelle. Et nous voulons libérer cette force également vers notre génération. Mais attention aux déperditions. Nous avons vu ici quelques points de déperdition. Donc chacun fait un bref inventaire dans sa vie. Clac, clac, calfeutre. Et on reste fort. Dis à ton voisin, sois fort. Sois forte. Seigneur, nous voulons te remercier. Parce que vraiment, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, merci, mon Dieu, de ce que dans ce monde, nous sommes forts, nous gardons courage et nous t'apportons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Amen.